Bien, en attendant que la machine finisse de se réchauffer, je vous propose de commencer. Aujourd'hui, on va voir essentiellement, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va voir essentiellement la notion d'arbre et plus particulièrement d'arbre binaire. Alors, les arbres sont une structure de données qui existe en informatique et qui est utilisée de façon, je dirais, extraordinairement diverse. Et on trouve des arbres en fait dans plein d'endroits. C'est une structure qui va être nouvelle pour vous puisque ça correspond à ce qu'on appelle les mathématiques discrètes, qui sont des choses qu'on ne fait plus, comment dire, on ne fait pas en mathématiques classiques pendant des années. Et vous allez voir qu'effectivement cette notion est fondamentale et qu'elle se décline à plein d'endroits insoupçonnés. Alors je lance le cours. Alors, je vous demande quelques instants encore, malheureusement. J'ai changé de version de système d'exploitation il y a 2 jours et je n'ai pas encore vérifié que tout marchait encore correctement. Bon, bah écoutez, on l'aura sous une forme plus réduite aujourd'hui, tant pis. Bien, donc, j'ai dit qu'on parlait d'arbres, et donnons quelques exemples d'arbres tout de suite. Donc, dans les arbres sont des structures qui ont, comme leur nom l'indique, et vous savez souvent qu'en mathématiques, on utilise des noms, je dirais, communs pour nommer des structures particulières, sont des choses qui répondent à un certain vocabulaire. Donc, les arbres ont des feuilles, ils ont des nœuds qui permettent de montrer des branches, et ils ont des racines. Donc tout ça est un vocabulaire qu'on utilise pour les arbres, sauf qu'en informatique, on dessine pratiquement toujours les arbres avec leurs racines en haut. Donc voilà des exemples d'arbres. Si par exemple vous prenez quelqu'un, c'est-à-dire vous, et c'est le premier exemple qui se trouve là, l'arbre généalogique des ascendants, vous avez vous qui êtes ici, vous avez un père, vous avez une mère, qui eux-mêmes en fait ont des grands-pères et des grands-mères, et là vous voyez une structure qui se ramifie, et qui a une racine qui est vous, et qui sont effectivement à un niveau vos ascendants directs, père et mère, à 2 niveaux vos ascendants, indirects au 2e niveau, qui eux-mêmes ont des pères, des mères, etc. Et vous avez cette structure-là arborescente. Maintenant, dans les autres exemples, vous avez aussi tout ce qui est expression arithmétique. C'est-à-dire que quand vous écrivez des expressions arithmétiques triviales en version, je dirais, naturelle, mathématique, comme vous, par exemple, vous écrivez 3 plus 2x, 3 plus 2x peut être vu aussi comme un arbre. Et en fait, sa structure arborescente est que vous avez un arbre qui est étiqueté, comme on dit, avec l'addition, qui possède une première branche qui se trouve à gauche et qui représente son facteur gauche, et qui a une seconde branche qui est une multiplication entre 2 et x. Donc vous voyez effectivement qu'une application particulière des arbres est qu'effectivement x7 et que une des représentations particulières des expressions arithmétiques est sous la forme d'un arbre. Et vous voyez au passage d'ailleurs que la forme arborescente, si par contre elle n'est pas très utile, elle n'est pas utile parce qu'en fait on a l'habitude de lire ces choses-là dans des lignes, dans des textes mathématiques, etc. Et la structure en ligne est particulièrement, je dirais, efficace pour être lue. Par contre, la version arborescente, vous voyez, ne pose aucun problème de reconnaissance, c'est-à-dire aucun problème d'ambiguïté. On voit bien, par exemple, dans la version arborescente, que c'est la multiplication qui est le facteur droit de l'addition, et non pas ce qu'on aurait pu, comprendre si on avait parenthésé de cette chose-là, à savoir que l'addition était le facteur gauche de la multiplication implicitement nommée qui se trouve ici. Donc en fait, cette forme n'est absolument pas ambiguë, simplement, elle est inécrivable parce que les gens n'écrivent pas comme ça des expressions mathématiques. Vous voyez que déjà une expression simple, comme à ce niveau-là, où on a simplement une addition avec ici un produit, correspond à un arbre qui a déjà trois niveaux. Donc imaginez la structure d'une représentation comme par exemple le fait que, je ne sais pas quoi, l'intégrale de e puissance moins 2x, etc., de 0 à l'infini, etc., vous commencez à avoir des couches et des couches de facteurs particuliers. Donc ceci est inécrivable, mais par contre, c'est la structure interne que manipulent les ordinateurs. Et vous avez vous-même appris, quand vous étiez à la communale, à faire des analyses grammaticales de phrases, dans lesquelles, effectivement, on vous faisait dessiner des choses qui ressemblaient à des arbres, à savoir qu'une phrase peut être comprise comme sujet verbe complément, avec le verbe qui a un sujet, le verbe qui a un ou plusieurs compléments, le sujet pouvant lui-même être un groupe sujet dans lequel il y a par exemple un nom, un article devant le nom, un adjectif derrière le nom, etc. Et vous aviez une structure arborescente naturelle qui se trouve là-dedans. La structure arborescente étant le résultat de l'analyse grammaticale qui a mené à comprendre une phrase particulière. Maintenant, les arbres, les deux types d'arbres qu'on a vus là sont des arbres dits binaires. Parce qu'en fait, à chaque nœud, vous avez effectivement deux fils possibles, c'est-à-dire le fils gauche et le fils droit. Les arbres binaires sont en fait une sous-catégorie des arbres généraux, où là, on permet par contre d'avoir un nombre quelconque de fils. Et donnons des exemples donc d'arbres généraux. Eh bien, il y a l'arbre général de la descendance. Si vous avez, un parent particulier et que vous avez plusieurs frères et sœurs, vous voyez effectivement que pour un nœud particulier qui représente un individu, sa descendance, en fait, représente un arbre qui n'est pas forcément un arbre binaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément un seul frère ou une seule sœur, vous pouvez en avoir plusieurs. Maintenant, vous avez toutes les histoires de table des matières, comme par exemple quand vous prenez un livre peut être vu comme un nœud, c'est-à-dire quelque chose qui représente ça, et un livre peut lui-même être décomposé en chapitres. Chaque chapitre peut lui-même être décomposé en sections. Les sections peuvent être décomposées en paragraphes. Certaines sections ou certains chapitres peuvent être suivis d'une section particulière d'exercices. Les exercices sont une série d'exercices. Et vous voyez effectivement que vous avez encore une fois une structure arborescente qui peut représenter la structure d'un livre. Vous avez, sur les ordinateurs, une structure naturellement arborescente qui est la structure des fichiers. Alors, c'est une structure qui s'est imposée dans le milieu des années 70 avec Unix. Avant, on avait des structures, complètement plates. Et lorsqu'on a une centaine de fichiers, avoir une structure plate ou arborescente ne fait pas grand-chose comme différence. Mais quand vous commencez à avoir des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de fichiers, alors la seule possibilité d'organisation est d'avoir une structure arborescente. Et je mentionnerai après un certain nombre de propriétés des arbres qui font que ce sont de bonnes structures pour notamment une gestion répartie de la complexité. Donc les fichiers, c'est-à-dire les structures de répertoire et de fichiers, ou dans le monde Windows et Mac, des structures de dossiers et de documents, représentent des arbres, puisque dans un dossier qui est un nœud, vous trouvez des documents ou des sous-dossiers, qui eux-mêmes sont des nœuds, qui contiennent des sous-sous-dossiers ou des sous-documents, etc., etc. Vous avez des structures encore, arborescentes, qui sont le nom des machines sur Internet. Assez souvent, le nom des machines obéit à une structure ternaire qui a cette structure-là. Donc je dis assez souvent parce qu'en fait c'est un arbre qui n'est pas limité seulement à trois nœuds, dans lequel vous avez ici ce qu'on appelle un TLD, un Top Level Domain, qui est en général des choses comme fr, .com, .net, .ceci, .cela. Donc c'est un pays ou c'est une organisation particulière. c'est-à-dire comme par exemple .edu, ce sont tout le réseau des universités nord-américaines. .com, commercial, c'est effectivement le réseau de toutes les sociétés qui ont acheté, comment dire, un nom de domaine dans un domaine particulier qui est le domaine du, comment dire, des sociétés commerciales. À l'intérieur d'un pays ou d'un domaine, donc, vous avez un sous-domaine ici, qui en général correspond souvent au nom d'une société ou au nom d'un ministère particulier. Et ensuite, vous avez en général, directement dessous, le nom des machines qui figurent dans ce domaine-là. Si vous prenez l'exemple de Jussieu, par exemple, Jussieu est un domaine qui répond à un top-level domaine qui est la France. La France contient de nombreux domaines, comme par exemple celui de Jussieu. En fait, Jussieu, en tant que parisiste, a un second domaine qui est le laboratoire auquel j'appartiens, qui est le LIPSIS, le laboratoire d'informatique de Parisis. Donc c'est deux domaines qui apparaissent en dessous. Jussieu lui-même est décomposé en, par exemple, un sous-domaine qui s'appelle le CICRP, un deuxième qui s'appelle le CCR, un troisième qui s'appelle l'administration, etc., etc. Et vous trouvez ensuite en dessous encore des sous-domaines, comme par exemple, je crois que sous le CICRP, vous trouvez le sous-sous-domaine de l'UTES, qui lui-même a un certain nombre de machines connectées. Donc là encore, une structure arborescente. Et la structure arborescente est la seule structure qui permette de gérer un ensemble de noms qui est absolument gigantesque, comme celui de noms des machines qui existent sur Internet. Il existe à peu près à tout instant environ 400 millions de noms dans l'arbre des machines, comment dire, connectées à Internet. Et 400 millions, c'est quand même un chiffre, comment dire, pas négligeable. Le problème de la gestion des noms dans Internet, c'est que, en fait, à tout instant, on ne peut pas savoir quel est l'ensemble des machines connectées, parce que le temps qu'il faudrait pour arriver à faire ça excède très largement plusieurs jours, ce qui veut dire, en fait, que vous avez un problème qu'on appelle le problème de l'instantané. Vous ne pouvez pas faire un instantané d'Internet parce qu'il est trop grand. L'image qu'on prend souvent pour, représenter ce problème-là est que vous êtes naturaliste, vous cherchez à compter le nombre d'oiseaux qu'il y a dans le ciel et vous avez juste un petit instamatique Kodak, okay, qui ne prend environ que 40 degrés, je dirais, du ciel. Donc l'idée, c'est que vous vous dites, pour arriver à mesurer une population d'oiseaux qui est en train de survoler, vous faites clic, 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 puis après vous essayez de recoller les morceaux. Eh bien, de temps en temps, vous aurez un oiseau qui a été pris dans le premier clic, vous allez déplacer votre appareil, vous allez le saisir dans la deuxième photo, donc il va compter deux fois, puis il y a l'oiseau qui va exactement dans l'autre sens, il ne sera pas dans la première parce qu'il n'y était pas encore, et il ne sera plus dans la deuxième parce qu'il est déjà dans la première. Donc en fait, quand vous essayez de paver le ciel avec vos photos qui ont été prises à des instants différents, vous n'avez aucun moyen, sauf à avoir des arguments statistiques sur la vitesse moyenne de vol des oiseaux, etc., etc., d'arriver à compter le nombre d'oiseaux particuliers. C'est exactement la même chose avec Internet, c'est trop gigantesque, on ne peut pas prendre l'instantané. Alors, les grandes propriétés des arbres pour ça, c'est que dans un arbre, et ça c'est la première grande propriété, toute feuille, alors les feuilles sont des nœuds particuliers qui n'ont pas de fils derrière, de dessous. C'est-à-dire que ceci est une feuille par exemple, mais CICRP n'est pas une feuille, puisque lui-même est un nœud qui possède des nœuds à l'intérieur, etc. Donc une feuille a un nom unique dans un arbre. Et ça c'est la première grande propriété. Le nom unique de toute feuille, et c'est aussi le nom unique de tout nœud, c'est la liste des nœuds par lesquels il faut passer à partir de la racine pour trouver le nœud particulier. Et vous voyez que ce nœud-là, qui s'appelle CICRP, est effectivement le nœud qu'on obtient en disant « donnez-moi d'abord FR, puis Jussieu, puis CICRP ». Donc il existe un procédé de dénomination de n'importe quel nœud qui est inambigu et complet. Et comment dire, inambigu, parce qu'un nom ne permet de mener qu'à un seul nœud, et tout nœud possède un nom, à partir de sa racine. Donc ça, c'est la première grande propriété des arbres. Le corollaire de ce truc-là, et c'est exploité au sens, d'Internet, c'est que quelqu'un peut être responsable d'un nœud et de tout le sous-arbre qui est enraciné à ce nœud-là, par exemple, ce nœud qui est basé sur CICRP, etc. Il peut changer ce qu'il veut à l'intérieur de ce sous-arbre, ça n'impacte strictement aucune autre partie de l'arbre. C'est-à-dire que la décision d'un ingénieur système au CICRP de rajouter une machine, par exemple, directement à cet endroit-ci, n'impacte aucun nom d'aucune partie qui ne soit pas dans ce sous-arbre-là. Et ça veut dire que vous pouvez avoir une gestion complètement répartie de cet arbre, c'est-à-dire que les gens de Stanford ne sont pas impactés par le fait que Jussieu rajoute des nouvelles machines, et inversement. Et du coup, maintenant, ça veut dire qu'effectivement, on perd la propriété d'un instantané parce qu'on n'a pas la table générale de tous les nœuds qui existent, mais elle est gérable par morceaux à tous les endroits où il y a des nœuds. Donc ça, c'est la grande propriété des arbres. Donc, ce schéma de nommage qui fait qu'il est, comment dire, qui permet de nommer uniquement les nœuds, permet d'avoir une gestion complètement décentralisée de cette chose-là. Alors, j'ai mentionné tout ça. Je mentionne aussi effectivement les organigrammes qu'il y ait un président, des sous-directeurs, des directeurs adjoints, etc. C'est encore une forme d'arborescence. Et encore une forme d'arborescence qui est utilisée de façon simple, c'est que tout le monde en gros a un chef, et les chefs eux-mêmes ont des chefs, etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive au chef global et suprême. Donc tout ça, ce sont des exemples d'arbres, et vous en avez un qui n'est pas mentionné là, mais que je vais mentionner aussi, c'est que, par exemple, si vous prenez un traitement de texte, comme par exemple Word, vous avez en fait derrière une notion qu'on appelle la notion de style, qui permet de dire, par exemple, ce paragraphe, il est en gras. En fait, la notion de style en Word correspond encore une fois à une notion d'arbre. Cette notion d'arbre fait que vous avez une programmation qu'on appelle par différence, et qui revient à dire, en fait, si je veux avoir... Pardon. Si le tableau du bas fonctionne à quel point de vue, qu'on peut écrire dessus ? Écoutez, je n'ai jamais remonté de ma vie. Allez-y. Je ne sais plus si c'est celui-là ou pas. Enfin, en tout cas, oui, parce que je le descends infiniment. Voilà. Très bien. Bien, oui, l'arbre des styles. Donc vous avez en fait un style par défaut qui existe en Word, qui est un style qui dit, il y a une certaine police de caractère qui est utilisée dans une certaine taille, avec une certaine couleur, etc., etc. Et il y a plein de propriétés que vous ne connaissez pas. Ensuite, lorsque vous voulez obtenir un effet particulier, vous allez créer un nouveau style, et ce style va être défini par différence. C'est-à-dire que vous allez créer votre style à vous, donc on va dire c'est mon style S1 à moi, et vous allez dire c'est comme le style ancien, sauf que, par exemple, je suis en gras. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir raffiner, c'est ce qu'on dit, votre style en disant c'est bien d'avoir un style en gras, mais j'aimerais bien avoir du gros gras et du petit gras. Donc, par exemple, du S1 qui serait effectivement du gras de 12 points, c'est-à-dire avec une certaine épaisseur de police, mais j'aimerais bien aussi avoir du gras avec du 10 points, c'est-à-dire du petit gras, par exemple, S1-2. Et voyez en fait que là, vous créez en fait un arbre qui utilise une propriété d'héritage, à savoir que quand vous demandez quelle est la couleur de la police de caractère qui est utilisée dans le style S1-2, comme il n'a pas été mentionné par différence dans ce style-là, puisqu'on n'a parlé que de la taille, ça veut dire qu'il hérite de la couleur venant du nœud S1. Le nœud S1 n'ayant pas mentionné quelle était la couleur, hérite de la couleur qui est mentionnée dans le nœud par défaut, c'est-à-dire le style, je crois, qui s'appelle normal ou standard dans la terminologie Word, et que là, vous obtenez la couleur qui est effectivement noire. Donc c'est dans cette programmation par différence, en fait, vous avez un arbre des styles, et encore une fois, c'est une vision arborescente des choses. Et donc là, quand vous créez un nouveau style, vous le créez sous la forme d'un nouveau nœud, ou plus exactement d'une nouvelle feuille, qui permet de dire, j'hérite de toutes les propriétés précédentes, sauf que, sur le nouveau nœud que je crée, eh bien, la couleur est rouge, ou la police de caractère est italique, etc., etc. Donc là encore, vous avez une vision arborescente des choses. Ça veut dire que les arbres, en fait, vous les retrouvez partout, en informatique. Ils existent, comment dire, pratiquement partout. Et à partir de maintenant, en TDTP, vous allez voir un certain nombre d'exercices sur les arbres. Alors, reprenons les aspects de vocabulaire. Les arbres sont toujours dessinés avec la racine en l'air. Et la racine, c'est effectivement le nœud, le premier nœud que vous trouvez en haut de votre dessin. Vous avez ici ce qu'on appelle des branches. Vous avez ici une notion qu'on appelle une notion de sous-arbre, c'est-à-dire le fait que c'est un arbre qui est lui-même a une racine, mais cette racine-là est actuellement le premier fils de ce nœud-là. Vous avez la notion, bien sûr, de fils et la notion de père, c'est-à-dire que le père de ce nœud-ci, c'est ce nœud-là, et le fils, un des fils de ce nœud-ci, c'est par exemple celui-ci, un autre fils, c'est celui-là, donc les relations d'héritage simples, les notions de sous-arbre, les notions de branche, donc ça, j'ai dit que assez souvent, ça représente une branche. Et enfin, assez souvent, on fait ce qu'on appelle une décoration, c'est-à-dire qu'un arbre qui a cette structure-là, on le décore en mettant des informations. Les informations dans tous les arbres qu'on verra sont portées par les nœuds. Et donc, par exemple, ici, dire que c'est un arbre qui est étiqueté plus, c'est-à-dire, vous lui collez une étiquette qui est une décoration qui vient à dire « ce nœud porte l'information plus ». Ce nœud, par exemple, porte l'information étoile. Et assez souvent, en fait, dans un grand nombre d'algorithmes, on a un arbre en entrée et on le décore de manière à calculer des propriétés particulières sur l'arbre. Donc maintenant qu'on a vu effectivement ce vocabulaire et quelques exemples d'arbres, voyons une catégorie particulière d'arbres qui sont les arbres binaires. Alors, les arbres binaires sont une catégorie particulièrement intéressante d'arbres parce que, d'une certaine manière, ce sont les plus simples des arbres. Vous voyez bien qu'un arbre qui n'aurait qu'un seul fils ne serait pas un arbre très intéressant, puisqu'en fait, ça serait un arbre qui serait de cette forme-là, un nœud, un fils, un nœud, un fils, un nœud, un fils, et on ne peut pas dire que ça évoque l'image d'un arbre. Au contraire, d'ailleurs, en fait, d'une certaine manière, cette structure de données, vous la connaissez déjà, c'est la liste. La liste peut être vue comme le cas d'un arbre unaire, c'est-à-dire qui ne permet qu'un seul fils à tout instant. Alors, si les arbres, comment dire, binaires, si les arbres étaient purement binaires et avaient toujours deux fils, ils ne s'arrêteraient jamais. Comme on souhaite les arrêter, on dit que les arbres binaires sont en fait soit des arbres vides, soit des arbres ayant deux fils. Exactement comme dans le cas de la liste peut être vue comme un arbre qui a un fils ou comme un arbre qui n'a pas de fils, c'est-à-dire qui est l'arbre vide. Et l'arbre vide, d'une certaine manière, est la même chose que la liste vide dans le cas des listes. Alors, on va créer un nouveau type de manière à pouvoir les nommer, ces arbres binaires de alpha, puisque vous savez que les arbres binaires donc sont fabriqués à partir de deux choses, soit l'arbre vide, qu'on représente par rien du tout, soit l'arbre, comment dire, binaire non vide, qui lui a exactement deux fils. Il a exactement deux fils, et donc par exemple, ceci est un arbre binaire qui contient donc deux nœuds, un arbre vide que je vais juste pour l'instant matérialiser par une grande croix, un arbre vide ici, un arbre vide ici. Donc là, vous voyez que cet arbre-ci qui est représenté à l'écran, que j'ai représenté au tableau, a trois arbres vides et deux nœuds non vides. Donc souvent, on ne dessine pas les arbres vides, puisqu'ils sont justement vides, et donc on ne les dessine pas, on obtient donc ceci, mais en plus, ce n'est pas la peine d'avoir une branche qui mène à un arbre vide, et donc on ne les dessine pas non plus. Ce qui veut dire que cet arbre-là, et cet arbre-là qui a donc une, deux, trois branches qui mènent vers les arbres vides, ne sont, comment dire, n'est dessiné que sous la forme de ces deux nœuds particuliers. J'ai dit que tous les nœuds donc étaient étiquetés, et par exemple, vous pourriez étiqueter ce nœud-là avec un nombre 1, et ce nœud-là, par exemple, avec un nombre 2. C'est une façon de l'étiqueter. Un arbre est représenté par le type donc d'arbre binaire ici, avec un type en paramètre qui est alpha, parce que vous voyez bien que quand vous décorez un arbre, vous pouvez le décorer avec des entiers, mais vous pouvez aussi le décorer avec des chaînes de caractères, vous pouvez le décorer avec des listes d'entiers ou des listes d'images, vous pouvez le décorer avec n'importe quoi. La seule contrainte, c'est que la décoration doit être homogène, c'est-à-dire que vous devez décorer les nœuds de l'arbre de la même manière. Ça n'a pas de sens de dire, je parle d'un arbre binaire d'entiers, et de décorer un nœud avec une chaîne de caractères. Un arbre binaire d'entier, c'est un arbre dont tous les nœuds ont des étiquettes qui ont le type entier. Un arbre binaire de chaîne de caractères, c'est un arbre binaire dont tous les nœuds ont une étiquette qui est une chaîne de caractères. Un arbre binaire qui est étiqueté avec des listes d'images est un arbre binaire dont tous les nœuds ont une étiquette qui est une liste d'images. Et donc, le fameux paramètre ici qui permet de savoir de quoi sont faites les étiquettes de cet arbre binaire, et le paramètre alpha qui se trouve à cet endroit-ci. Et donc, maintenant, se pose encore une fois le problème de se dire, eh bien, comment fait-on pour arpenter des arbres, c'est-à-dire j'ai un arbre et je dois le traiter d'une manière ou d'une autre. Et là encore, maintenant, vous commencez à être bien rodé, puisque vous avez vu la récursion sur les noms, vous avez la récursion sur les listes, eh bien, on va voir quel est le schéma général de récursion sur les arbres, qui est la forme, je dirais, standard, pour arpenter un arbre, le parcourir en tous sens. Donc un arbre binaire en termes récursifs, c'est soit un arbre vide, soit un arbre qui a un nœud avec un sous-arbre gauche et un sous-arbre droit, et un nœud qui porte une étiquette de type alpha. Donc déjà, cette définition récursive doit vous faire penser que, si vous vous rappelez comment on avait défini la liste en structure de données récursives, vous permet en fait de pouvoir assez vite voir quel va être le schéma de récursion sur les arbres. Mais auparavant, on va introduire une barrière d'abstraction disant « Je ne veux pas savoir comment sont faits les arbres, je veux simplement savoir comment on les manipule. » Parce que d'une certaine manière, tous les petits dessins que j'ai faits ici et qui représentent des arbres ne sont que des dessins. Et, comme on dit souvent en géométrie, les dessins ne sont pas des preuves. C'est-à-dire que ces dessins ne sont faits que pour suggérer l'idée qu'il y a de ce que c'est qu'un arbre et de ce qu'on peut lui demander. La bonne façon de travailler sur un arbre, c'est d'utiliser la barrière d'abstraction qui dit voilà comment un arbre se construit, se manipule. Donc vous avez encore une fois un type de données qu'on appelle l'arbre binaire et pour lequel vous reconnaissez les familles standards de fonctions capables de traiter cette structure de données. Donc la première fonction sont les constructeurs qui permettent de créer des arbres. Alors au début, il faut un constructeur simple qui est le constructeur de l'arbre vide, et donc toutes les fonctions de la barrière d'abstraction seront préfixées par AB-, c'est-à-dire arbre binaire, et toutes ces fonctions apparaissent dans la carte jaune cette année, la carte de référence de toutes les fonctions que vous avez le droit d'utiliser. Donc AB vide est le constructeur qui permet de créer un arbre vide, et AB nœud est le constructeur qui permet de créer un arbre non vide. Comme un arbre non vide est représenté par un nœud qui possède une étiquette et qui possède deux sous-arbres, un fils gauche et un fils droit, on verra que AB vide est un constructeur qu'on dit 0R ou nihilique. Il y a la version latine et la version grecque, c'est-à-dire qu'il ne prend aucun argument, parce que pour fabriquer un arbre vide, on n'a besoin d'aucun argument, on fabrique l'arbre vide. Et l'arbre nœud ici, on le verra en termes de spécification juste derrière, est un constructeur qui prend effectivement l'étiquette, l'arbre gauche, l'arbre droit, et qui vous fabrique le nouvel arbre binaire correspondant à ceci. Alors, une fois qu'on a fabriqué les arbres vides et les arbres non vides, on a une famille d'accesseurs qui permettent en fait de pouvoir extraire de l'information des arbres non vides, bien sûr. Les arbres vides étant vides, n'ont aucune information en eux. Donc les accesseurs ne travaillent que sur les nœuds, et sont capables de dire, pour un nœud particulier, je suis capable de sortir l'étiquette, l'arbre gauche et l'arbre droit. C'est exactement les trois choses qu'on a mises comme argument de l'arbre nœud, et on est capable, bien sûr, de les récupérer toutes les trois. Enfin, il y a un reconnaisseur particulier qui est que les arbres binaires, il y en a deux formes. Il y a les arbres binaires vides et les arbres binaires non vides. Donc il faut avoir un mécanisme qui permet de reconnaître si on est dans le cas d'un arbre binaire vide ou d'un arbre binaire non vide. Et ce mécanisme est un prédicat particulier qui s'appelle AB nœud point d'interrogation et qui répond vrai si l'arbre binaire a été fabriqué par AB nœud et qui répond faux si l'arbre binaire n'a pas été fabriqué par AB nœud, c'est-à-dire est l'arbre binaire vide. Donc voilà les... Et je pense que dans la carte de référence, il doit y avoir aussi AB vide point d'interrogation qui reconnaît les arbres binaires vides. Je ne suis pas sûr si quelqu'un a sa carte de référence, la carte jaune. Non, il n'y est pas? Bon. Alors, c'est un oubli, probablement. Bien, alors, ces trois natures de fonctions sont celles, effectivement, qui permettent de manipuler les arbres. D'une certaine manière, algébriquement, on n'a besoin de rien d'autre. On n'a même pas besoin de savoir comment sont faits les arbres. En fait, la simple lecture de ces constructeurs et reconnaisseurs permet de les manipuler. Par contre, c'est vrai que, pour les gens qui ont l'esprit de géométrie, la vision ici de dire... Pour un arbre particulier, je suis capable de prendre son étiquette ou bien d'obtenir son sous-arbre gauche ou son sous-arbre droit, en fait, sont les choses, je dirais, géométriquement importantes. On ne parlera pas d'implantation, puisqu'en fait, même si toutes ces fonctions-là sont écrites en scheme, en fait, le but n'est pas de comprendre, ni même de savoir comment elles sont écrites, le problème est de savoir les manipuler. Et donc là encore, on est en train de vous donner une voiture en vous disant voilà la clé qui permet de la faire marcher, le volant qui permet de faire avancer et les pédales qui permettent de faire des choses. Et on ne vous dit pas que c'est fait en fer, qu'il faut mettre de l'huile, de l'essence, etc., etc. Alors, regardons d'un petit peu plus près toutes ces familles. Donc d'abord, les constructeurs. Donc AB vide vous fabrique l'arbre binaire vide. Vous avez AB nœud qui permet de dire si vous me donnez une étiquette, un fils gauche et un fils droit, je vous fabrique un nœud particulier qui répond à la spécification. Et voilà par exemple des petits arbres de nombre. AB nœud 3, AB vide, vous fabrique un nœud. Donc le voici, qui a une étiquette qui est l'étiquette 3, et qui a deux sous-arbres vides, le sous-arbre vide gauche et le sous-arbre vide droit. Comme on a dit qu'on ne dessinait pas les sous-arbres vides, en fait, l'expression qui est ici vous fabrique un arbre qui est réduit à un nœud et qui a deux fils, gauche et droit, qui sont les arbres vides. Alors, cet arbre-là n'est pas très intéressant parce que on peut pas dire qu'il ressemble vraiment à un arbre, il a aucune branche intéressante. En voici un autre qui, lui, par contre, est plus intéressant. Donc, vous avez ici un arbre qui est fabriqué en plusieurs expressions. Donc, d'abord, AB nœud, ici, dit, vous avez un nœud qui possède l'étiquette 8 et qui possède un fils gauche qui est le résultat de cette expression-ci. Le fils gauche dit donc que c'est un nœud qui possède l'étiquette 10 et qui possède un arbre vide à gauche et un arbre vide à droite. Comme on a dit qu'on dessinait pas les arbres vides, le voici. Maintenant, à droite, c'est-à-dire en fils droit de l'arbre étiqueté par 8, nous avons un nouvel arbre qui est un nœud étiqueté par 12 et qui lui, là aussi, n'a aucun fils gauche et aucun fils droit. Donc voici un arbre à maintenant 3 nœuds qui sont étiquetés par 8, 10 et 12, et voici en fait comment on le fabrique. Donc voici maintenant les constructeurs, et vous voyez bien en fait que par, je dirais, composition des constructeurs, vous pouvez maintenant être capable de créer des arbres aussi profonds que vous le voulez, d'un million de nœuds si vous le souhaitez, ou par exemple essayer de représenter toutes les machines internet que vous connaissez. Ça fait 400 millions de nœuds, c'est quand même assez gros. Voici un autre petit exemple d'un arbre encore plus compliqué. Donc j'ai fabriqué ici une expression pour le calculer qui est en trois lignes. Donc la première expression dit soit B0 l'arbre qui a pour nœud 3, et donc je vais le dessiner au passage. Donc B0 est une expression qui dit je crée un arbre avec un nœud 3, et vous voyez qu'en fait il y a ici deux arbres vides à gauche et à droite. Je crée, donc ça c'est B0, c'est ce truc là. Je crée maintenant quelque chose que j'appelle B1, qui est quoi? Qui est un nœud qui est étiqueté 5, donc le voici, et qui a pour fils gauche et pour fils droit B0. C'est-à-dire que maintenant j'ai ici 3 et j'ai ici 3. Donc voici effectivement mon arbre B1. Et donc B1, c'est cette chose-là. Et maintenant, si je regarde la troisième expression qui est B2, B2 dit, je suis un arbre étiqueté par 4, et j'ai à gauche B0, c'est-à-dire 3, et j'ai à droite B1, c'est-à-dire la chose qui se trouvait ici, à savoir 5, 3 et 3. Donc voici effectivement mon arbre B2, tel que je l'ai fabriqué ici. Et vous reconnaissez dans le schéma qui est ici, et le dessin qui est là, dans lequel on a fait figurer les branches menant vers des arbres vides, le même dessin qui se trouve ici. Alors, lorsque, sous Dr. Skim, vous lancez cette expression-ci et que vous demandez à voir le résultat que vous obtiendrez, en fait, est un truc qui est imprimé sous la forme dièse piquant object piquant. Ok? C'est-à-dire que c'est une valeur, comment dire, abstraite. C'est-à-dire que vous ne voyez pas, en fait, dans ce résultat, vous ne voyez pas que c'est un arbre binaire, et vous ne voyez pas non plus son contenu. La raison est que vous avez fabriqué un objet opaque, qui est utilisable que par la barrière d'abstraction, c'est-à-dire par les fonctions qu'on a vues précédemment, à savoir AB étiquette, AB gauche, AB droit, etc. Mais la seule chose que vous sachiez, c'est que vous avez créé un objet opaque qui se trouve ici. Donc ceci, en fait, c'est pas pour vous embêter, mais c'est pour vous montrer effectivement que, assez souvent en informatique, quand on commence à faire des choses assez compliquées, eh bien, on crée des objets en mémoire, quelque part, qui n'ont pas forcément de représentation écrite. Et donc, vous avez fabriqué un objet opaque, sur lequel toutes les fonctions de la barrière d'abstraction peuvent s'appliquer, mais il n'est pas forcément écrivable, imprimable. Il y a des tas d'objets en informatique qu'on ne peut pas écrire, certains parce qu'ils ont des caractéristiques, comme par exemple le fait d'être circulaires, c'est-à-dire de pouvoir se référencer eux-mêmes, ce qui correspond à, si vous les imprimez, à des choses qui sont infinies, c'est-à-dire que vous n'arriverez jamais au bout. Deuxièmement, il y a des valeurs concrètes qui sont tellement énormes que de toute façon, elles ne sont pas appréhendables par l'esprit humain. Un terme d'une démonstration, par exemple, qui fait 10 millions de caractères de long, est absolument illisible par un être humain normalement constitué. D'ailleurs, si vous regardez, par exemple, le premier tome en mathématiques des œuvres de Bourbaki, qui est sur la théorie des ensembles. Il y a à peu près 30 pages qui essayent de dire qu'est-ce que c'est qu'une définition formelle, qu'est-ce que c'est qu'une démonstration formelle, etc. Et qui ensuite conclut au bout des 30 pages qu'elle introduit un vocabulaire en disant c'est comme ça qu'on parlerait des démonstrations, sauf que le premier théorème qui se trouve juste après, en fait, sa démonstration excède 500 pages. Et c'est un théorème trivial, du genre, pour tout ensemble vide, aucun élément appartient à l'ensemble vide. Donc déjà, la démonstration fait 500 pages. On n'a pas envie de passer 500 pages à démontrer ce théorème qui est quand même relativement facile. Et donc, en fait, il y a des termes qui sont tellement immenses qu'on ne peut pas les écrire parce qu'ils dépassent l'entendement. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est faire des programmes qui vont inspecter l'objet pour savoir si telle ou telle propriété est vraie, comme par exemple, un programme qui va inspecter le théorème et qui va dire, est-ce que j'ai maintenant vérifié que cette démonstration est correcte ou pas? Donc, vous voyez, en fait, qu'assez souvent en informatique, on crée des objets qui sont opaques, soit parce qu'ils sont trop importants pour être écrits, soit parce que, en fait, il y a des caractéristiques qui font qu'on n'arrive pas à les écrire, notamment qu'ils sont autoréférentiels, c'est-à-dire qu'ils sont capables de parler d'eux-mêmes, ce qu'est naturellement la récursion. Alors, maintenant, passons donc aux accesseurs qui permettent d'extirper de l'information à partir d'un nœud. Donc, rappelez-vous, les arbres binaires qui sont ici, effectivement, prennent un arbre binaire quelconque et vous ramènent l'étiquette de cet arbre binaire. Là, il y a une erreur lorsque l'arbre B qui a été soumis en argument n'est pas un arbre plein, c'est-à-dire répondant à AB nœud, auquel cas vous ne pouvez pas demander l'étiquette d'un arbre vide, car il n'y a pas d'étiquette sur un arbre vide. Maintenant, le fils gauche et le fils droit répondent quasiment à des spécifications, je dirais, symétriques. Sauf que là encore, l'arbre vide n'ayant ni fils gauche ni fils droit, il est inutile et il est même erroné de demander quel est le fils gauche d'un arbre binaire vide ou quel est le fils droit d'un arbre binaire vide. Ça n'a aucun sens. C'est exactement, et en fait, vous commencez à vous rendre compte peut-être qu'il y a un lien avec les listes, c'est demander le quart d'une liste vide ou le coudeur d'une liste vide n'a aucun sens parce que la liste est vide. Eh bien, exactement la même chose avec les arbres binaires vides. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de fils gauche, il n'y a pas de fils droit. Et c'est une erreur que de demander ces trois informations sur un arbre binaire vide. Alors, voici quelques exemples. Par exemple, ici j'ai un arbre B01 qui est cette définition-là, un arbre B02 qui est cette définition-là, un arbre B1 qui est un nœud et qui utilise B01, B02, et un arbre B2 qui utilise B01 et B1, c'est-à-dire celui-ci. Eh bien, sans les dessiner, on peut demander effectivement quelle est cette chose-là. Donc l'arbre droit de B2, c'est en fait l'arbre qui correspond à B1. L'arbre gauche qui correspond à B1, c'est en fait l'arbre B01. Et l'étiquette de B01, c'est en fait l'étiquette qui se trouve ici, 3. Et vous voyez donc que je n'ai pas besoin de dessiner les choses pour effectivement pouvoir raisonner sur ce programme-là. Et ce que je viens de faire en fait n'est qu'une application de règles purement algébriques, sauf que maintenant, au lieu de travailler sur des choses assez simples comme vous avez pu le faire en algèbre, on travaille maintenant avec des règles algébriques sur des structures qui sont des arbres binaires. Et les règles algébriques sont simples. Si j'ai des arbres binaires G et D, donc gauche et droite, et une valeur V qui va me servir d'étiquette, alors, si je fabrique un arbre binaire avec une étiquette, un fils gauche, un fils droit, et que je demande immédiatement après l'étiquette, ça donne effectivement la valeur de l'étiquette. C'est-à-dire que faire un nœud d'étiquette V, quel que soit ses fils, si vous demandez son étiquette, c'est V. Demander le fils gauche d'un nœud qui a pour fils gauche G, c'est en fait la même chose que G. Et demander le fils droit d'un nœud qui a pour fils droit D, c'est la même chose que D. Donc ces trois, règles algébriques permettent de lier le constructeur avec les accesseurs. Et donc, bien sûr, maintenant, vous avez la relation inverse, qui est que là, d'une certaine manière, AB étiquette, AB gauche et AB droit, qui sont des accesseurs, sont des inverses à gauche de AB nœud partiel. Vous avez maintenant l'autre relation qui relie maintenant AB nœud à gauche des accesseurs qui se trouvent ici. Et donc, si j'ai un arbre binaire non vide B, alors, en prenant son étiquette, son fils gauche et son fils droit, et en refabriquant un arbre AB nœud à partir de ces trois termes-là, j'obtiens quelque chose qui est un arbre B équivalent à l'arbre qui se trouve ici. Quand je dis équivalent, ça veut dire simplement qu'ils ont mêmes étiquettes, ils ont même fils gauche et ils ont même fils droit. Et donc, ils sont indiscernables de l'arbre initial B. Donc ça, ce sont des règles purement algébriques qui fait que, effectivement, par exemple, il est inutile dans un programme d'écrire AB étiquette de AB nœud de VGD parce que ce programme-là, en fait, qui correspond à cette règle de ligne, se simplifie directement en V. Ça sert à rien de fabriquer un arbre dans lequel on met une étiquette pour l'extirper immédiatement après. Sans garder, bien sûr, trace de l'arbre qui a été fabriqué au milieu. Et donc c'est à peu près exactement la même chose que quand vous écrivez quart de cons de x, y, autant écrire x tout court. Ça ne sert à rien de fabriquer une liste qui contient x et y pour en tirer le premier terme qui est x. Vous avez exactement les mêmes relations ici en termes algébriques sur les arbres binaires. Alors, le reconnaisseur, on a vu que c'était AB nœud point d'interrogation, donc permet de dire si vous me donnez un arbre binaire, alors je saurai reconnaître si c'est un arbre binaire vide ou un arbre binaire plein. Plein, c'est-à-dire non vide. Et donc, par exemple, si vous appliquez AB nœud sur un arbre binaire vide, ça vous répond non, ce n'est pas un nœud, puisqu'il est vide. Par contre, si vous créez un nœud avec une étiquette et deux arbres binaires et que vous demandez si le résultat est un arbre binaire non vide, la réponse est oui, puisque cet arbre binaire est un arbre binaire non vide, puisqu'il a une étiquette, un fils gauche et un fils droit. Donc, voici la barrière d'abstraction avec les constructeurs, les accesseurs et le reconnaisseur AB nœud point d'interrogation. En fait, si vous regardez la carte jaune, vous verrez qu'on a introduit une autre fonction supplémentaire dans la carte jaune qui permet de représenter un arbre binaire sous une forme qui permet, je dirais, de le comprendre. Alors, quelles sont les formes qui permettent de visualiser les arbres binaires? Eh bien, ce que l'on sait, ce que l'on a appris et ce que l'on a programmé, c'est qu'en fait, un arbre binaire, alors j'ai oublié le nom d'ailleurs de cette fonction de visualisation, c'est AB exp, je crois. AB expression. AB expression, en fait, marche de la façon suivante. Quand vous lui donnez un arbre binaire, il vous répond comme valeur la représentation du programme qu'il aurait fallu évaluer pour créer un arbre rigoureusement équivalent. C'est-à-dire que, quand vous dites par exemple, donnez-moi l'expression permettant de fabriquer cet arbre binaire qui est l'arbre binaire vide, la réponse c'est AB vide. Et donc il vous donne comme réponse un fragment de programme qui, si vous l'aviez évalué, vous aurait donné un arbre équivalent à celui qui avait été reçu en argument par AB expression. Si maintenant par exemple, et c'est le cas plus intéressant, je donne ici par exemple cette chose-là, j'écris par exemple let B1 égale AB vide, fermante, et puis par exemple je fais AB nœud de 3 et de B1, B1. Vous voyez que là j'ai fabriqué un arbre qui est en fait 3 et puis deux sous-arbres qui sont vides derrière. Eh bien si je fabrique cet arbre-là et que je le donne à AB expression, le résultat sera ceci, à savoir AB nœud 3, AB vide, AB vide. Et effectivement, ce programme-ci fabrique exactement le même arbre que celui qui a été reçu en argument par la fonction AB expression. Donc vous voyez qu'il n'y a absolument pas identité entre ce programme-ci et ce programme-là. Par contre, l'un et l'autre sont en fait équivalents à ce sens-là. C'est-à-dire que l'un et l'autre ont pour valeur exactement le même arbre. Mais ce que vous reconstruit la fonction AB expression, c'est un fragment de programme qui est garanti fabriquer le même arbre que celui qui a été reçu en argument. Alors la fonction est toute bête, vous pouvez maintenant en fait quasiment la refaire vous-même dès que vous aurez manipulé le concept de récursion sur les arbres, ce à quoi nous allons venir dans un moment. Alors, cette fonction d'affichage en fait elle est là. Ici, vous voyez que j'ai fabriqué un petit arbre avec B0, B1, B2, un peu compliqué. Demander AB expression sur cet arbre-là permet de recréer une expression qui, si elle était évaluée, aurait recréé exactement le même arbre que celui qui se trouve ici. Donc là, l'exemple est un peu plus compliqué que celui que j'ai fait là, mais il est exactement de même nature. Vous voyez ici que j'ai fait un nœud 3 avec rien, un nœud 5 avec les nœuds 3 en dessous, un nœud 4 avec un sous-arbre gauche et un sous-arbre droit. Et ici, en fait, je refabrique exactement l'expression qui est en fait équivalente à l'arbre que j'ai fabriqué à cet endroit-ci. Bon, je passe dessus, c'est pas très important. Et donc on arrive maintenant au cœur du problème qui est de dire, ben, je comprends bien les arbres maintenant, j'ai une barrière d'abstraction qui me permet de les manipuler, comment puis-je faire pour manipuler ces arbres, c'est-à-dire faire des traitements dessus? Eh bien, là encore, puisqu'on a une structure de données qui est définie de façon récursive, il y a naturellement un schéma de récursion qui s'instaure dessus. Et ce schéma de récursion, en fait, il s'illustre avec cette fonction particulière qui est le schéma générique de récursion sur les arbres binaires. Et ce schéma générique de récursion, en fait, s'appuie sur la nature des arbres. Donc, lorsque vous avez une fonction récursive qui doit travailler sur un arbre binaire, alors, la première question est de se dire, eh bien, cet arbre binaire, est-il vide ou est-il plein? Parce que s'il est vide, alors il faut que je traite le cas de l'arbre vide. Et je le traite. Maintenant, si l'arbre B n'est pas vide, ça veut dire qu'il a une étiquette, il a un fils gauche et il a un fils droit. À ce moment-là, je pars en récursion sur le fils gauche, je pars en récursion sur le fils droit, et je combine la valeur de l'étiquette avec le résultat du traitement sur le fils gauche et le résultat du traitement sur le fils droit, et en combinant ces trois valeurs-là, j'ai la valeur finale qu'il faut attribuer à l'arbre binaire B que je suis en train de traiter. Si vous réfléchissez à ça en pensant, et je vous invite à le faire, aux listes comme cas particulier d'arbre en fait n'ayant qu'un seul fils, eh bien vous verrez que d'une certaine manière, ce schéma générique sur les arbres binaires est une généralisation du schéma générique de récursion sur les listes. Sauf que les listes étaient des arbres, d'une certaine manière, qui n'avaient qu'un seul fils au plus, alors que là, les arbres binaires sont des arbres qui ont deux fils exactement. Sauf bien sûr dans le cas vide qui se trouve ici. Alors, ça c'est le schéma générique, et en fait je pense que maintenant vous êtes suffisamment habitués pour dire, ben, c'est toujours la même chose. Pour traiter un arbre vide, on s'arrête parce que la récursion s'arrête, il n'y a rien à faire, je fais ce qu'il me faut faire. Et pour traiter un arbre plein, eh bien simplement pour traiter un arbre plein, je traite le fils gauche, j'obtiens un résultat, je traite le fils droit, j'obtiens un résultat, et je combine le résultat obtenu à gauche avec le résultat obtenu à droite et avec l'étiquette, et je dois avoir le résultat pour mon arbre courant. Alors, on va voir deux illustrations de calculs simples sur les arbres qui vont bien sûr mettre en œuvre ce calcul-ci. Par exemple, je vous donne un arbre et je dis, j'aimerais savoir combien il y a de nœuds non vides dedans. Par exemple, je prends l'arbre d'Internet, je suppose que je l'ai quelque part, et je dis simplement, c'est bien beau d'avoir cet arbre, j'aimerais savoir combien il y a de machines en fait dedans. C'est-à-dire, combien il y a de nœuds dans cet arbre-là. Alors, pour Internet, vous apercevez que, j'ai dit combien il y a de machines. On peut penser que les machines, c'est ce qu'on appelle la frondaison, hein, puisqu'on est en termes d'arbre, c'est-à-dire le feuillage de l'arbre, c'est-à-dire l'ensemble des feuilles. Là, on est en train de calculer le nombre de nœuds, c'est-à-dire on compte aussi les nœuds internes, c'est-à-dire en fait on compte le nombre de feuilles plus le nombre de nœuds qui ont des branches particulières. Donc regardons de plus près ici le nombre de nœuds, et regardons effectivement de dire, je veux compter le nombre de nœuds dedans, c'est-à-dire le nombre de choses qu'il y a dans mon arbre et qui répondent vrai à AB nœuds. Alors allons-y. Calculer le nombre de nœuds qu'il y a dans un arbre B. J'applique bêtement le schéma récursif général de parcours des arbres et je dis, ben c'est simple, soit l'arbre est plein, soit l'arbre est vide. Combien y a-t-il de nœuds dans l'arbre vide? Zéro. Et ça c'est terminé. Maintenant, combien y a-t-il de nœuds dans un arbre plein? Eh bien c'est simple, il y a le nœud sur lequel je suis, le nombre de nœuds qu'il y a dans mon fils gauche et le nombre de nœuds qu'il y a dans mon fils droit. Donc le nombre de nœuds total quand je suis à cet endroit-ci, c'est 1 pour moi, plus ce qu'il y a à gauche et plus ce qu'il y a à droite. Donc j'obtiens effectivement que dans le cas où B est un arbre non vide, c'est-à-dire qui répond vrai au prédicat B nœud, j'ai 1 plus le nombre de fils à gauche et le nombre de fils à droite. Et c'est fini. On peut difficilement faire plus simple pour compter le nombre de nœuds qu'il y a dans un arbre. J'écris simplement ça et j'obtiens ma définition. Donc prenons un petit exemple. Ici, je fabrique encore une fois un arbre, comment dire, avec certains nœuds, etc., que vous voyez ici. Je demande le nombre de nœuds là, et je vous montre en fait la trace qui se passe lorsque je demande tout ça. Ça me dit, rappelez-vous que les arbres apparaissent sous la forme d'objets. Donc en fait, si je reprends l'arbre ici et que je le redessine, c'est en fait cet arbre-là, non ? AB4 avec B01, B01 c'est 3, c'est ça. Et B1 à droite, B1 c'est 5, avec B01 et B02. B01 c'est effectivement ça, B02 par contre c'est 2. Donc voici en fait l'arbre qui est calculé ici. C'est cet arbre-là qui a 4, puis 3, 5 et 3, 2. Donc maintenant, je calcule le nombre de nœuds. Donc calculer le nombre de nœuds à cet endroit-ci, c'est simple, c'est de dire, c'est 1 plus le nombre de nœuds qu'il y a là, plus le nombre de nœuds qu'il y a là. Donc le nombre de nœuds, je pars en récursion sur le fils gauche. Le nombre de nœuds qu'il y a ici, 3, c'est en fait de dire 0. Donc je calcule 1 plus le fils gauche et le fils droit. Comme le fils gauche c'est 0, c'est le 0 ici qui arrive là. Ça c'est le fils droit du nœud qui se trouve ici, c'est 0. Et le total du nombre de nœuds sur ce nœud-ci, c'est 1 plus 0 plus 0, c'est le 1 qui est ici. Donc là, le 1 ici représente le nombre de fils qu'il y a dans le sous-arbre gauche du nœud 4. Maintenant je dois partir sur le nœud à droite. Le nœud à droite, pour obtenir le nombre de nœuds ici, il faut d'abord que je calcule le nombre de nœuds qu'il y a ici. Pour calculer le nombre de nœuds qu'il y a ici, il faut que je calcule le nombre de nœuds sur le fils gauche, 0. Puis sur le fils droit, 0. Puis maintenant, je peux faire ma somme pour calculer, c'est 1 à ce niveau-ci. Je continue parce que maintenant, il faut que je fasse la récursion ici. La récursion ici permet de dire, je fais la récursion sur 2, puis sur son fils gauche, 0, puis sur son fils droite, 0. Maintenant, 1, c'est le résultat que j'obtiens ici. Maintenant, je peux calculer ici, puisque j'ai 1 et 1 et 1, ça me fait 3. Puis maintenant que j'ai 3 ici et 1 là, je peux calculer cette somme-là, et j'obtiens donc 1 plus 1 plus 3, c'est-à-dire 5. Et voyez effectivement que là encore, la récursion ne pose aucun problème. Elle est pas très profonde, puisque sa plus grande profondeur, c'est en fait la plus grande profondeur de l'arbre, c'est-à-dire en fait 3 appels récursifs imbriqués. Et donc voilà en fait d'une certaine manière la preuve que comme exactement les récursions sur les listes, les récursions sur les arbres ne posent aucun problème. La seule chose est effectivement d'arriver à déterminer la relation qui relie le résultat avec les résultats partiels du fils gauche et du fils droit et de l'étiquette qui se trouve à cet endroit-ci. Donc je vous propose un nouveau calcul, donc une nouvelle illustration de la récursion sur les arbres, qui est le calcul de la profondeur d'un arbre. La profondeur d'un arbre, c'est en gros, l'idée, c'est ce qu'on appelle aussi la hauteur d'un arbre, sauf que la hauteur d'un arbre, on a plutôt tendance à voir que les arbres poussent vers le haut, alors que la profondeur, ils poussent plutôt vers le bas. C'est en fait, ici, la profondeur, c'est 3, parce que vous voyez, il y a 3 niveaux en fait ici. Alors, regardons la définition. Elle est simple en fait. Je prends toujours mon schéma récursif qui dit la profondeur d'un arbre dépend du fait que est-ce qu'il est vide ou pas vide. La profondeur d'un arbre vide, je la définis par définition comme étant égale à 0. Reste à savoir maintenant quelle est la définition de la profondeur d'un arbre non vide. On voit bien que l'arbre qui est à cet endroit-ci, sa profondeur, c'est en fait elle est liée à la profondeur de ces deux sous-fils. La profondeur de celui-ci, c'est 1. La profondeur de celui-là, c'est 2. Et donc, on voit bien que la profondeur de ce nœud-là, c'est 1 de plus que le maximum des profondeurs de son fils gauche ou de son fils droit. Si celui-là a une profondeur de 2, alors ce nœud-là ne peut pas avoir une profondeur inférieure à 3. Et comme celui-ci a une profondeur de 1, celui-ci aurait une profondeur de 2, et que 2 étant inférieur à 3, en fait on prend le maximum des profondeurs, et donc on regarde en gros tous les chemins, et la maximum de profondeur de ce nœud-là, c'est en fait 1, 2, 3. On peut l'obtenir par cet ordre-là, ou par cet ordre-ci, ça ne mange pas de pain, c'est la même chose. Et donc dans les deux cas, la profondeur de l'arbre B, c'est, s'il est plein, c'est 1 de plus que le maximum de la profondeur de son fils gauche, ou de la profondeur de son fils droit. Et donc vous voyez que là encore, j'ai effectivement combiné l'étiquette et les résultats de mes deux calculs récursifs à gauche et à droite en prenant ce coup-ci 1 plus que le max. Donc ceci en fait me permet très simplement de calculer la profondeur d'un arbre. Et donc en gros, pour vous donner une échelle de grandeur, sur Internet, la profondeur n'excède pratiquement pas 7. C'est-à-dire qu'on a 400 millions de machines en fait sur un arbre qui est assez court, enfin assez peu profond, puisqu'en fait il ne fait que 7 de profondeur. Quand vous prenez des expressions récursives dans des expressions arithmétiques, vous arrivez souvent à des profondeurs du genre 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais par contre sur un nombre de nœuds qui est égal en gros à une trentaine. Donc vous voyez bien en fait que là, il y a des arbres qui sont, je dirais, extrêmement touffus, c'est-à-dire c'est plutôt des arbres buissonnants, ils sont extrêmement touffus mais peu profonds, alors que dans certains autres cas, notamment dans les compilateurs, notamment des compilateurs pour des langages comme Scheme, vous apercevez en fait que vous avez des structures qui sont beaucoup plus profondes, mais par contre qui font un nombre de nœuds relativement faible. Tout ça font que, les algorithmes sont quelquefois différents suivant les choses qu'on veut faire et suivant la forme des arbres qu'on a à traiter. Pour l'instant, on ne se soucie pas de ça et on applique une technique, je dirais, béton, qui consiste à appliquer le schéma récursif général sur les arbres binaires. Alors, continuons à faire des calculs sur les arbres, et donc là, on va regarder une notion qu'on appelle la notion de parcours. Vous avez un arbre ici qui correspond à une expression arithmétique que vous avez en fait sous plusieurs formes indiquées en dessous. Cette expression arithmétique est un arbre binaire, comme vous le voyez ici. Donc il y a un arbre binaire qui a une profondeur de 1, 2, 3, 4, donc profondeur 4. Si on comptait le nombre de nœuds, on verrait qu'effectivement il y en a 1, 3 et 4, 7 et 2, 9. Et donc cette expression, en fait, si je la représentais de manière totalement parenthésée, ça serait en fait l'expression qui est là. Elle est totalement parenthésée, sauf que, bien sûr, on aimerait plutôt l'écrire sous une forme, je dirais, plus régulière ou plus usuelle en mathématiques, qui serait en fait cette forme-là, en utilisant toutes les astuces syntaxiques que vous connaissez bien pour en fait arriver à une expression non ambiguë. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai une addition. À gauche, j'ai 3 fois n. 3 fois n en maths, en général, ça s'écrit 3 n. Ensuite, à droite, j'ai encore une multiplication de 2. Par contre, j'ai ensuite une multiplication de 2 avec une soustraction. Et là, clairement, mathématiquement, on écrit en général des parenthèses pour représenter la chose là, et donc c'est 3 moins x. Et donc l'écriture mathématique serait en fait celle-ci. L'écriture mathématique, je dirais, usuelle de cette expression particulière. Donc ce que vous avez ici, c'est l'expression complètement parenthésée et complètement explicite, c'est-à-dire avec l'étoile représentant la multiplication, qui n'a pas été mentionnée ici et qui n'est pas mentionnée à cet endroit-là, et le parenthésage complet qui dit que pour toutes les opérations binaires, elles sont dûment parenthésées de manière à ne pas être ambiguë. Donc ceci est l'expression totalement parenthésée. Maintenant, si on avait à écrire la même expression en Scheme, on écrirait en fait la même chose, mais en version parenthésée avec opérateur préfixe, c'est-à-dire les opérateurs, au lieu d'être au centre, sont en fait en tête de parenthèse. Et donc là, vous avez la version skimienne qui correspond à dire qu'on fait une addition entre ces deux choses-là, qui est une multiplication ou une multiplication d'une soustraction qui se trouve ici. Pour l'instant, ça c'est deux écritures différentes, mais ça représente toujours le même arbre en mémoire. Maintenant, vous avez les polonaises, donc les écritures polonaises, qu'on a vues au premier cours. Au premier cours, on a vu plusieurs façons de représenter les expressions. Donc, la polonaise préfixe se trouve ici. La polonaise préfixe est une version dans laquelle, premièrement, les opérateurs ont une arité extrêmement bien définie. Donc, plus a une arité de 2, étoile a une arité de 2, et tiret, la soustraction, a aussi une arité de 2, et où on n'utilise strictement aucune parenthèse. Donc en fait, vous allez retrouver l'expression qui est là, sans aucune parenthèse, et ceci en fait, cette expression-là, est tout aussi inambiguë que l'expression précédente ou que la précédente encore. Donc ça, c'est la version qui permet d'écrire les choses en polonaise préfixe, et donc une machine qui lirait ça dirait, tiens, on me demande de faire une addition, donc il faut que je lise deux choses derrière. Donc elle retient qu'il faut mémoriser deux choses, donc elle commence à regarder derrière, elle dit, ah tiens, on me demande une multiplication, donc il faut mémoriser les deux choses qui suivent. La troisième chose, c'est 3, donc 3 devient le facteur gauche de l'étoile. Et la quatrième chose devient le facteur 2 de l'étoile. Ayant trouvé le facteur gauche et droit de l'étoile, ceci en fait fait un unique terme qui devient le facteur gauche de l'addition. Et donc il faut encore lire une chose, mais pour lire cette chose-là maintenant, on lit à partir d'ici, qui est encore une multiplication qui dit il faut lire deux choses. La première chose que je lis, mon facteur gauche, c'est 2. La seconde chose que je lis, c'est une soustraction qui elle-même demande à lire deux choses. Donc la soustraction, il y lit les deux choses qui sont derrière, à savoir 3x. Moins 3 et x devient le facteur droit de l'étoile. Donc l'étoile a bien son facteur gauche ici et son facteur droit qui est là. Donc l'étoile fabrique est un facteur droit de l'addition qui était ici. Donc vous voyez en fait qu'on peut analyser ça sans aucun problème. Et cette expression préfixe est totalement inambiguë. Maintenant, vous pouvez faire la même chose avec des listes préfixes en mettant des parenthèses, mais vous pouvez aussi utiliser une polonaise postfixe qui correspond plutôt au mode, je dirais, de calcul de certaines calculettes, qui consiste à rentrer les chiffres, enter. Enter sert de séparateur aux chiffres, et ensuite vous vous donnez les opérations après pour pouvoir les effectuer. Du genre, vous dites 3, enter, 4, plus, et là vous dépilez le 3 et le 4 pour fabriquer 7. Eh bien, l'expression postfixe ici se trouve là. Vous rentrez 3, vous rentrez n, vous les multipliez, et donc là vous avez 3 fois n. Donc 3 fois n, c'est les 3 n qui se trouvent ici. Maintenant, vous dites, je rentre 2, je rentre 3, et je rentre, je rentre 2, je rentre 3, je rentre x, je demande à faire moins. Le moins ici prend les deux derniers termes, à savoir 3x, et fabrique 3 moins x. Donc maintenant, sur la pile, j'ai 2 et j'ai 3 moins x. Maintenant, je dis étoile, je multiplie donc 2 et 3 moins x, et donc j'obtiens ce résultat-là. Et maintenant, je dis plus, et donc je fais la somme entre ce résultat-là et celui-là qui était dans la pile, et j'obtiens mon résultat final. La version postfixe n'est que, d'une certaine manière, une image de la version préfixe. Les deux sont totalement inambigus et, en fait, correspondent à deux modes de pensée différents. La grande vertu de ces deux versions polonaises, et c'est pour ça que ça a été inventé par Lukasiewicz, c'est qu'effectivement, dans les deux cas, on n'a plus besoin de mettre de parenthèses. Les choses sont inambiguës à partir du moment où les opérateurs ont des arités bien définies. C'est-à-dire que là, on sait que tous les opérateurs sont binaires et que donc, pour s'appliquer, ils ont besoin de deux termes. Alors, si on, la question est-ce que l'on pourrait fabriquer ces choses-là automatiquement à partir de l'arbre qui est ici? Et donc, ces arbres correspondent à des parcours que je vais redessiner ici pour vous montrer effectivement les différents types de parcours qui existent. Puisque ce sont des choses, je dirais, extrêmement classiques. Et donc, je reprends mon arbre qui est plus, étoile, 3 et n, étoile, 2, moins, 3 et x. Donc, voici mon arbre et je vous propose un premier parcours qu'on appelle le parcours préfixe. Le parcours préfixe consiste à dire, je pars de la racine, puis je vais parcourir mon arbre en le parcourant en ce qu'on appelle en profondeur d'abord, de la gauche vers la droite. Donc j'arrive sur un nœud, je descends, j'arrive sur une feuille, puisque d'une certaine manière il n'y a plus rien derrière, je remonte jusqu'au nœud intermédiaire, je redescends, je remonte jusqu'au nœud intermédiaire, je redescends, je remonte, je redescends, je remonte, je redescends, je remonte, je remonte, je remonte, j'ai terminé. Ceci est un parcours préfixe. Alors, je peux maintenant dans le parcours préfixe, vous voyez que je suis donc en profondeur d'abord et de la gauche vers la droite, et donc manifestement, il y a un parcours qu'on appelle postfixe, qui est le parcours exactement, symétrique, qui consiste à dire, je vais en profondeur d'abord, mais de la droite vers la gauche. Donc c'est le parcours rigoureusement symétrique. Alors, ce parcours qui est en profondeur gauche-droite, ou en profondeur droite-gauche, c'est là qu'interviennent des caractéristiques qu'on appelle les parcours préfixes, infixes ou suffixes. Et là, ça traite non pas exactement de la façon dont j'ai parcouru, mais de la façon dont je vais traiter les étiquettes des nœuds qui se trouvent ici. Supposons maintenant que je sois donc en profondeur d'abord, gauche-droite, et préfixe, c'est-à-dire que je vais traiter les étiquettes avant de traiter les fils gauche et les fils droit. Regardez dans quel ordre j'obtiens les étiquettes. dans ce parcours-ci en les considérant avant les fils gauche et les fils droit. Je les écris directement. J'ai donc ici, si je regarde l'ordre dans lequel je vais parcourir ces choses-là, je vais obtenir plus, étoile, 3, n, étoile, 2, moins, 3, x. Et ceci, c'est quoi? C'est exactement ce parcours-ci. C'est-à-dire que le parcours, la liste préfixe, c'est effectivement l'ordre dans lequel je vois les étiquettes de cet arbre lorsque je suis en profondeur d'abord gauche-droite et que je traite les étiquettes des nœuds avant de traiter leur fils gauche et leur fils droit. Donc d'une certaine manière, la liste préfixe qui se trouve ici, elle est obtenue par ce parcours, donc en profondeur d'abord gauche-droite, dans lequel je traite les étiquettes avant de traiter les fils gauche et les fils droit. Regardons maintenant ce qui se passe si je suis dans ce parcours-là toujours, mais que maintenant je traite les étiquettes après les fils gauche et les fils droit. Regardons ce que ça donne. Donc, plus étoile 3, n. Je remonte sur étoile, et maintenant c'est la dernière fois que je la vois, puisque j'ai vu à la fois son fils gauche et son fils droit. Donc, voici l'étoile. Je remonte sur le plus, mais attendez, j'ai pas fini de traiter son fils droit, donc je redescends. Je redescends, j'arrive sur 2. Je remonte sur l'étoile, mais j'ai pas fini de traiter son fils droit, donc je redescends. 3, x. Je remonte sur le moins, mais maintenant, je remonte en ayant traité son fils gauche et son fils droit, donc je le mentionne, moins. Je remonte sur l'étoile, mais j'ai traité son fils gauche et son fils droit, je le mentionne. Je remonte sur le plus, mais j'ai traité son fils gauche et son fils droit, je le mentionne. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la structure de polonaise postfixe qui se trouve ici. Donc le simple fait d'avoir pris le même parcours, mais d'avoir traité les étiquettes avant les fils gauche et droit, j'obtiens la polonaise préfixe. Si je traite les fils gauche, les étiquettes après les fils gauche et droit, j'obtiens la polonaise postfixe. Donc maintenant on peut se dire, mais que se passerait-il si je traitais les étiquettes en position infixe, c'est-à-dire entre le fils gauche et le fils droit? Eh bien là, j'obtiendrai quoi? Donc j'obtiendrai rien parce que j'ai pas fait le fils gauche, rien parce que j'ai pas fait le fils gauche, 3. Je remonte ici, mais maintenant je suis entre le fils gauche et le fils droit, donc je traite l'étiquette, étoile. Je redescends sur n, je remonte sur étoile, mais maintenant j'ai traité le fils droit, donc j'ai fini. J'arrive sur le plus, je redescends sur l'étoile, rien encore. Je descends sur le 2, je le mets. Je remonte sur l'étoile, ce coup-ci je le mets parce que je suis entre le fils gauche et le droit. Je redescends sur le moins, je redescends sur le 3. Je remonte sur le moins, mais à ce moment-là je le mets. Je redescends sur le x, je remonte, j'ai terminé. Et ça, vous voyez que d'une certaine manière, ça correspond à un ordre qui est à peu près cet ordre-là, mais dans lequel il n'y a aucune parenthèse. Eh bien, propriété de la chose, ces deux choses-là qui correspondent aux polonaises, on sait écrire des machines qui les reconnaissent et qui savent, à partir de ces choses-là, reconstruire l'arbre. À partir de ça, vous apercevez que ça ressemble à ce qu'on écrit en maths, mais sans parenthèse, c'est totalement ambigu. Puisqu'on ne sait plus en fait si ça il faut le parenthéser comme ceci, ou si ça il faut le parenthéser par exemple comme ceci. Et donc en fait cette forme-là est totalement ambiguë. Et donc en général on ne l'utilise pas parce qu'elle est trop ambiguë. Par contre ce que l'on peut faire c'est de dire, puisque la version infixe qui consiste à traiter l'étiquette au milieu n'est pas correcte parce que justement on a oublié les parenthèses, est-ce que je saurais faire un parcours de cet arbre permettant, en combinant des traitements avant, au milieu et après, de reconstruire l'expression parenthésée totalement ici? Eh bien oui, on peut. L'idée est très simple. Quand j'arrive sur un nœud binaire, je commence par sortir une parenthèse ouvrante, puis je traite le fils gauche, je sors l'opérateur, je traite le fils droit, puis je mets une parenthèse fermante. Et donc je vous propose de regarder ce que ça donne. Donc allons-y, j'arrive sur plus, ouvrante. J'arrive sur étoile, ouvrante. J'arrive sur 3, je le sors. Je remonte sur l'étoile, maintenant je suis au milieu, je sors l'étoile. Je redescends sur le N, je remonte sur l'étoile, j'ai terminé avec l'étoile puisque j'ai traité, mais il faut que je ferme la parenthèse puisque je suis en train de quitter l'étoile. J'arrive ici, je vais donc sortir le plus, et je redescends sur le fils droit. Je traite l'étoile, donc il faut que j'ouvre une parenthèse. Je redescends sur le 2, je le sors. Je remonte sur l'étoile, je sors l'étoile. Je vais sur le fils droit, moins, donc j'ouvre une parenthèse. Je vais sur le fils gauche, 3. Je remonte sur le moins, je le sors. Je redescends sur le X, je le sors. Je remonte sur le moins, je ferme la parenthèse. Je remonte sur l'étoile, je ferme la parenthèse. Je remonte sur le plus, je ferme la parenthèse. Et qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens exactement la première expression qui se trouve ici. Mais maintenant, cette expression-ci est dûment bien parenthésée et elle ne pose aucun problème de reconstruction. Donc, vous voyez en fait que parmi tous les parcours, donc, on peut faire des traitements avant le nœud binaire, ensuite faire des traitements entre le fils gauche et le fils droit, puis faire des traitements après le nœud binaire. Donc au début, on avait un traitement simple qui était la liste préfixe. On ne faisait des traitements qu'avant, les fils gauche et droit. La liste postfixe consistait à dire « je ne fais des traitements qu'après les fils gauche et droit ». Et le traitement du milieu infixe consiste à dire « je fais un traitement avant, au milieu et après ». Et ce faisant, j'ai pu par exemple reconstruire pratiquement toutes les opérations qui se trouvent ici. Donc vous voyez que le parcours ici, donc en profondeur d'abord, gauche-droite, en fait, me permet de régénérer tout ce qui se trouve à cet endroit-ci. Bien, je vais terminer ici pour le cours. Là, c'est le code, en fait, qui permet de faire la, comment dire, cette fameuse liste-là en version préfixe, mais elle utilise des fonctions comme append qui sont un peu compliquées, et donc on verra ça la semaine prochaine. Merci.